Initiatives citoyennes, rencontres, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
Retour en enfance le vendredi 19 juin où le théâtre de Tarare accueillait le concert des animés dans le cadre du week-end culture manga au profit de l'association Ensemble pour Julia présidée par Fabien Bosque. Une soirée réunissant quatre voix dont trois emblématiques des génériques de dessins animés et d'animes japonais. Enrique, premier interprète français de Goldorak, Jean-Paul Césari, l'inoubliable voix de Nicky Larson, Ne craint personne, Jean-Marc Antonio Nikabea, connu notamment pour les génériques de Pokémon et Franck Anime Live. Sur scène, les membres de Cosplay Corp ont également accompagné plusieurs tableaux musicaux en incarnant en cosplay les héros des séries interprétées. À l'origine de cette aventure musicale, Franck Anime Live, directeur artistique du concert des animés, il en a imaginé la construction et le déroulé. Sur scène, les chanteurs interprètent leurs propres titres, tandis que Franck vient enrichir l'ensemble en revisitant des openings cultes des années 80, comme Capitaine Flamme, Bioman ou encore Dragon Ball, mais aussi des années 2000 avec Code Lyoko ou Miraculous Ladybug. Également créateur de la web-série Elven, il nous présente tout d'abord son univers. Comment est née l'idée de créer Elven et qu'est-ce qui vous a inspiré au départ ?
Alors, la création d'Elven vient de Ryudoka, de Mokoval Studio. C'est lui qui en est complètement le propriétaire et en tout cas, c'est lui qui a développé cette idée-là. Il est très fan à la base de séries tokusatsu, c'est-à-dire c'est les séries un petit peu Sentai ou Metal Hero, style X-Or, Bioman, voilà, pour imaginer les choses. Et il est très très fan voilà, de ces séries-là et surtout de Kamen Rider. Et il a voulu faire, à travers cette série, un hommage au Kamen Rider, mélangé aux légendes arthuriennes et saupoudré d'un humour très corrosif, très humour noir. Et voilà finalement ce que c'est la série Elven.
Et pourquoi ce mélange détonnant et incroyable finalement ?
Ça fait vraiment partie de sa culture, en tout cas, à la fois cinématographique et télévisuelle, avant tout. Et je crois que quand on nourrit des projets comme ça, c'est parce que c'est des choses qui nous ont influencés forcément quand on était plus jeune et qu'on a adoré, qu'on a aimé.
Quel a été le plus gros défi dans la création de la série ?
Le plus gros défi, vraiment pour eux, ça a été les armures. Les armures, je sais, ça a été un travail très colossal, conséquent et remarquable de la part de Clément. Clément qui joue le rôle justement d'Elven. Et il a énormément bossé là-dessus, sur la conception des armures, qui a été faite aussi avec Ryudoka, parce que Ryudoka, du coup, dessine des plans, et quelque part, Clément, lui, amène jusqu'au bout du bout la réalisation dans notre monde réel. Vraiment, ça a été un très, très gros travail. Je crois que le plus gros défi a été là, hormis après le choix, bien sûr, des lieux de tournage, puisque tout ça n'est pas réalisé que en salle ou en studio. On l'a vu, on est vraiment en plein air et ça, c'est très agréable.
Quel personnage de votre univers pourrait chanter le mieux un générique de ce soir et lequel ?
Moi, je pense Ryudoka directement. Alors, est-ce qu'il en est capable ? Je ne sais pas. Mais forcément, lui adore cet univers-là. On est grosso modo des mêmes générations. Hein. On a été nourris avec Recréa 2, avec le Club Dorothée. Donc, en définitive, je pense que par cœur, il serait capable d'en interpréter quand même déjà pas mal.
Et laquelle ?
Alors, moi, je pense les Chevaliers du Zodiac. Même Sailor Moon. Je suis sûr que Sailor Moon, il est capable de la faire.
Bon, on attend ça alors peut-être.
C'est son défi prochain.
On note. On va parler un petit peu de la collaboration d'aujourd'hui.
Alors tout simplement, c'est Fabien Bosque qui gère et pilote la convention Weekend Culture Manga, où on va se retrouver demain et après-demain, qui, en étroite ligne avec la mairie, a proposé mon nom, en tout cas pour mettre en place ce genre de concert. Et rapidement, on s'est tous contactés avec son impulsion. Et derrière, ça a donné lieu à faire un montage, un vrai montage multi-chanteur. Et c'est vraiment cette partie, moi, que j'adore, que j'affectionne. Forcément, Jean-Marc, Jean-Paul, Enrique, c'est pas les premiers concerts qu'on fait ensemble. Il y en a déjà depuis quelques années, forcément plusieurs. Et surtout, avec Enrique, on travaille même à longueur d'année assez étroitement, puisque chacun a sa carrière solo. Et de temps en temps, on nous demande ensemble, parce qu'on a monté un show Goldorak. Et d'ailleurs, on sera présent à la Japan Expo Paris Ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On sera non seulement à Japan Expo Paris, donc la première convention de France, mais en plus on est là pour les 25 ans de la convention et on sera là pour présenter pendant deux jours le show Goldorak qu'on a mis en place. Enrique va interpréter bien sûr ses titres phares et moi je vais venir interpréter notamment les deux titres que j'ai fait à la Goldorak Experience, plus la version de Noam, etc. Et puis des petites surprises que je vous dévoile pas. Venez nous rejoindre à Japan Expo, vous allez voir, c'est très sympa.
Votre plus beau souvenir, la Goldorak Experience peut-être ?
Oui, incontestablement oui, parce que pendant cette soirée, il s'est passé beaucoup de choses. Outre la Goldorak Experience et la possibilité, parce que sur le papier, je n'avais rien à y faire. Je ne suis pas chanteur d'origine de Goldorak. Et avoir la chance de chanter aux côtés de Noam, d'Enrique, même si je l'avais déjà fait, de Bernard Minet, de Jean-Pierre Savelli, d'être avec les vrais chanteurs de Goldorak, les originaux, ça c'est déjà extraordinaire. Ça s'est fait pourquoi ? Parce que le producteur a souhaité, parce que malheureusement Lionel Leroy est décédé il y a quelques années, il a souhaité faire une incarnation sur scène et pas laisser la scène vide et passer uniquement ses chansons. Il voulait qu'il y ait un chanteur qui interprète. J'ai préparé une maquette, il se trouve que ma voix collait très très bien et c'est pour ça que je me suis retrouvé embrigadé dans cette superbe aventure. Cerise sur le gâteau, le producteur avait fait la surprise au public d'accueillir Dorothée. Et du coup, j'ai pu profiter de quelques minutes en backstage pour pouvoir échanger avec Dorothée, vraiment entre quatre yeux, dans des conditions qu'on ne peut pas avoir comme ça à l'accoutumée. Donc vraiment, incontestablement, oui, cette soirée restera pour moi mémorable.
Et ce week-end, vous allez prolonger votre présence.
Le petit extra, c'est que dimanche, je serai encore sur place, sur Tara, parce que moi, du coup, je participe à la convention Weekend Culture Manga, parce que je suis l'animateur du week-end, et je ferai un concert supplémentaire, cette fois-ci en solo, sur le dimanche après-midi. Là, on va mélanger un petit peu quelques japanimes, mais on va aussi faire du Disney, parce que le Disney aussi, c'est quelque chose que les gens adorent, les grands, mais surtout aussi les tout-petits, donc c'est vraiment, là aussi, très intergénérationnel, et c'est ça qui est vraiment cool.
Un petit mot sur le médaillon que vous portez ?
Par rapport au médaillon que je porte autour du cou, qui est le médaillon d'Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or, ce soir, il y a un deuxième médaillon qui va être sur scène, plus gros, plus doré, plus tape à l'œil pour la scène. Et en fait, il y a une surprise, parce que c'est Enrique qui va interpréter ce soir les Mystérieuses Cités d'Or. Alors, il sait qu'il y a des cosplayers qui vont intervenir. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je vais venir en grand prêtre, lui remettre le médaillon autour du cou. Et forcément, comme le grand prêtre est casqué, mon visage sera dissimulé. Et ça va être une petite surprise. Petite surprise aussi, c'est que Jean-Marc aussi va arriver sur scène, mais en Tao. Toutes les tenues sont déjà prévues. Donc, Enrique sait qu'il y a des cosplayers qui vont intervenir avec lui pour les Mystérieuses Cités d'Or. Par contre, il ne sait pas que moi, Jean-Marc, on sera dans la partie.
Et la surprise a été totale sur scène pour Enrique, qui n'a pas immédiatement réalisé que Tao était interprété par Jean-Marc Anthony Cabea et surtout n'a pas reconnu Franck sous son casque du grand prêtre.
Projecteur, il est dans notre vie, un peu plus de bonheur.
première interprète de la version française de Goldorak et figure historique de la série, Enrique demeure une voix intimement liée au générique malgré les différentes versions qui ont pu exister au fil du temps. Son travail sur la série lui vaut également une reconnaissance officielle de la famille de Gonagai, créateur de Goldorak, ainsi que de Toei Animation, le distributeur des animes japonais. Avec beaucoup d'humour, il revient avec nous sur son parcours et sur son lien toujours fort avec ce personnage culte.
Voilà, me llamo Enrique et je suis très content d'être en France, que ça me fait beaucoup plaisir. Lyon, je ne connaissais pas, Tarraro non plus, mais que mucho gusto.
Vous aviez tout juste 21 ans. Lorsque vous avez interprété le générique de Goldorak, imaginiez-vous que ce succès durerait encore près de 50 ans après ?
Jamais de la vie ! Jamais, non. Audrey, vraiment, dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais imaginé interpréter quelque chose qui soit encore dans le cœur, toute génération confondue, des filles, des garçons, c'est incroyable. Ça a traversé des générations, et non, à 20 ans, je ne pouvais pas m'imaginer ça.
La première fois que vous avez entendu votre voix à la télévision, quelle a été votre réaction ?
Alors, je l'ai rarement entendu. Par contre, ce sont mes frères et sœurs qui, à l'époque, parce que moi, j'étais en tournée, et à l'époque où ils le diffusaient, en 78, puisque c'est le premier générique de la série des Goldorak, en 1978, et bien l'été où ça a été programmé, j'étais en tournée avec Herbert Léonard, avec Carlos, avec Nicoletta, des artistes des années 80. Tous les soirs, on était sur scène, l'après-midi, des répétitions. Donc, je me suis rarement entendu ou vu. Ça a été que bien plus tard, lors de rediffusions, que je me suis entendu, en fait. Oui.
Et ça fait quoi ?
Ben, ça fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre parce que c'est quand même un animé japonais. Avec tout ce que ça avait d'explosif et de novateur à l'époque, c'était génial. C'était des robots alors qu'il n'y avait que des animaux. Nous, on avait des ours, on avait des canards, on avait des lapins, on avait des souris. Mais il n'y avait pas de robots, en fait. Moi, ça m'a surpris. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire que j'ai été le premier fan, en Europe en tout cas, de Goldorak, quand il est arrivé en France.
Et qu'est-ce que ça fait de se dire que finalement vous avez apporté de la magie à toute une génération et puis même les suivantes ?
Ben, ça me remplit de bonheur parce que j'ai eu la chance de chanter ce générique, comme je vous dis, il y a une cinquantaine d'années, pour les parents et les grands-parents qui maintenant effectivement sont parents et grands-parents, mais à l'époque étaient des bambins, des gamins de 9, 10, 11, 12 ans, voire 6 ou 7 ans. Et le plaisir que j'en retire, c'est que ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire, mon générique est dans le feuilleton quand il va défendre la planète à court vers nous, prince de l'espace, Goldorak, go ! Il se bat vraiment et les parents maintenant le font écouter aux enfants, aux nouvelles générations, ce qui fait que ça a traversé avant toutes les générations.
Y a-t-il une phrase du générique que vous chanteriez différemment aujourd'hui ?
Alors non, c'est peut-être un peu prétentieux parce qu'à l'époque où je l'ai chanté, je ne voulais pas qu'on soit moins bon que la version japonaise. Parce que les Japonais avaient fait un truc super, le feuilleton par lui-même et le manga, le système manga, les images, l'imagerie on va dire, étaient déjà très performantes et super.
Quelle était l'ambiance dans les studios d'enregistrement à la fin des années 70 ?
Ben, elle était plutôt bizarre parce que moi j'avais 20 ans, comme vous l'avez signalé, et il y avait 5 ou 6 Japonais qui étaient là, en costard, et qui acquiesçaient ce que je faisais derrière le micro, mais il n'y avait pas grand monde, on était tout seul. Bon, bien sûr, il y avait Pierre Delanoë, l'auteur, celui qui a écrit les paroles en français de Goldorak, de la première version, et non, c'était plutôt pas froid, mais bon, chaleureux, juste ce qu'il faut, quoi. On se comprenait pas, il parlait japonais, je parlais français, on était mal.
Si Goldorak existait vraiment, où aimeriez-vous qu'il vous emmène ?
Ah, très bonne question, bravo ! Faire le tour de la planète, peut-être, ou aller beaucoup plus loin que notre planète à nous, parce qu'il arrivait, bon, bien sûr, d'une autre planète, et pour venir sur la planète bleue, qui est la nôtre, bien qu'elle soit magnifique, j'aurais aimé, oui, faire un petit tour avec lui, oui, tout à fait.
Entre Goldorak, Actarus, Alcor, quel personnage vous ressemble le plus ?
Je pense que c'est Actarus. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été... On s'identifie comme beaucoup, hein, comme des millions et des millions de fans, de passionnés, dont je suis, à Actarus.
force de l'espace. Viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre. Elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Des étoiles, viens vite, viens nous protéger. Dans ton merveilleux robot, tu te bats encore. Repousse tous les assauts, deviens le plus fort. La terre a besoin de toi pour battre Vega. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons. Sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité.
Autre voix emblématique de cette soirée, Jean-Paul Césari, interprète du générique Nicky Larson, ne craint personne. Figure associée à l'époque du Club Dorothée, il a participé à de nombreuses adaptations françaises de séries japonaises diffusées dans les années 1990. Son générique est devenu l'un des titres les plus reconnaissables de toute une génération, encore largement repris aujourd'hui, dès les premières notes. Comment êtes-vous arrivé dans l'univers des génériques et des animés du Club Dorothée ?
C'est une très bonne question. Un peu par hasard, je dirais, parce qu'en fait, lorsque j'ai été engagé par l'équipe, je n'ai pas été engagé pour chanter, pas du tout. J'étais engagé pour être l'assistant personnel de Dorothée, ce que j'ai été pendant quelques années. Mais il se trouve que M. Jean-Luc Azoulay, le patron, donc, m'a convoqué en me disant « Est-ce que tu veux bien chanter ?» Il savait que j'étais chanteur et musicien. Il m'a dit « Écoute, si tu veux essayer de chanter quelques génériques, ça serait bien. » Parce que comme c'est Bernard Minet qui les fait tous, ce serait bien qu'on ait une autre voix. Voilà comment je suis arrivé à chanter quelques génériques.
Parmi toutes les chansons que vous avez enregistrées, laquelle vous ressemble le plus ?
Bon, maintenant, j'ai un petit peu changé, mais je crois que quand même Nicky Larson, finalement, ça m'allait pas mal à l'époque, oui. Voilà. Et c'est vrai que je me retrouvais en tout cas dans certaines actions de ce détective, qui était quand même aussi... séducteur, on peut le dire.
Y a-t-il un générique que vous auriez aimé interpréter mais qui vous a échappé ?
Non, je pense que ce que je chante moi, ça me suffit amplement et je n'ai pas essayé d'en chanter d'autres d'ailleurs. C'est vrai que Juliette, je t'aime, c'est un truc que j'aime bien et que j'aurais pu peut-être l'interpréter, mais bon, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Minet. Mais sinon, franchement, mes chansons me suffisent vraiment.
Y a-t-il un générique pour lequel le public est étonné d'apprendre que c'est vous le chanteur ?
Il y a un générique, effectivement, où les gens sont étonnés, comme je le dis, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait dans le cadre du Club Dorothée, c'était après, et ça s'appelle Détective Conan. Et c'est quelque chose qui est très demandé maintenant, parce que les gens maintenant savent que c'est moi qui le chante, mais à l'époque, au début, il y a quelques années en arrière, c'est vrai que ça a étonné tout le monde.
Quelle a été votre plus grosse surprise après la diffusion de l'un de vos génériques ?
Alors au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas de surprise, parce que bon, honnêtement, je ne pensais pas qu'on en reparlerait 30 ans après. Pas du tout, non. Au départ, moi j'ai chanté ces trucs, en fait, j'étais payé un peu plus, moi je n'ai pas peur de le dire, hein. et je ne me suis pas, je me suis pas mis dans la peau des personnages, pas du tout. Et même à la limite, je ne regardais même pas les diffusions, parce que de toute façon, je n'avais pas le temps. Quand on est assistant de Dorothée, j'imagine que vous savez ce que ça peut être et les heures que ça prend. Donc effectivement, je ne connaissais pas toutes les histoires en tout cas.
Racontez-nous un moment où quelque chose s'est complètement passé autrement que prévu.
Oula. Quelque chose qui n'était pas prévu, je me rappelle, une des tournées de Dorothée. Et à la fin de la soirée, on allait manger au restaurant tous ensemble. Il y avait tous les musiciens, les musclés, les danseurs, Dorothée, Jean-Luc Azoulay et moi-même. Et on dînait dans un très beau restaurant. Et puis, il y avait aussi le chorégraphe qui s'appelait Chris. Et ce soir-là, c'était son anniversaire. Et donc, à notre grande surprise, M. Jean-Luc Azoulay a pris son assiette et l'a cassée par terre. Il nous a dit que c'était la tradition. Donc, il a fallu qu'on casse aussi toutes nos assiettes. Je vous laisse imaginer la tête des gens qui nous recevaient. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui m'a laissé un souvenir impérissable.
Votre générique est devenu indissociable de Nicky Larson pour toute une génération et même la suivante. Quel regard portez-vous sur la manière dont Philippe Lachaud a modernisé cet univers pour le cinéma ?
Déjà, ce que je peux dire sur Philippe Lachaud, c'est que j'ai été vraiment très heureux qu'il fasse appel à moi-même pour faire une petite apparition. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un de mes plus beaux souvenirs artistiques. J'ai participé à ce tournage et franchement, le cinéma, je ne le connaissais pas du tout. Et puis, ils ont été tellement sympas avec moi, tellement respectueux que franchement, c'est des gens qui resteront dans ma mémoire et qui seront gravés parce qu'ils ont une espèce de sympathie énorme et qui se transmet d'ailleurs. Et franchement, je les aime beaucoup, toute l'équipe.
Vous avez également travaillé aux côtés de Didier Barbelivien, c'est peut-être moins connu, à une période de votre carrière. Quel souvenir gardez-vous de cette collaboration et qu'est-ce que son regard d'auteur-compositeur vous a apporté artistiquement et humainement ?
C'est vrai qu'à l'époque, on cherchait un auteur, parce que c'est moi qui faisais mes chansons. Mais ça ne marchait pas, ou pas assez en tout cas. Et donc la production avait décidé de faire appel à un auteur de renom. Donc c'était Didier Barbelivien. On ne s'est pas vu souvent, je l'ai eu souvent au téléphone en tout cas. Bon, il a écouté, parce que la musique c'est moi qui l'avais faite sur une chanson qui s'appelait Comédienne. Il a écouté la chanson, on s'est vu une fois ou deux mais pas plus. Et il m'a rappelé à peu près 3 semaines après et il m'a dit voilà j'ai une idée, tu me diras ce que tu en penses. Et moi j'ai trouvé que la chanson était superbe et tout. Malheureusement elle n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir parce que la réalisation n'était pas bonne. Et parce que peut-être je n'avais pas pris dans la bonne tonalité, je ne sais pas. En tout cas, il manquait quelque chose à cette chanson. Et ça, c'est un de mes grands regrets. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir travaillé avec quelqu'un comme lui. Voilà.
Aucun danger ne l'impressionne.
Jean-Marc Anthony Cabella est notamment connu pour avoir interprété le générique français de Pokémon Attrapez-les tous, qu'il a porté sur les 10 premières saisons de la série. Une voix immédiatement identifiable pour toute une génération de téléspectateurs ayant grandi avec l'univers de Pokémon.
J'ai fait quelques génériques dont Pokémon, Yu-Gi-Oh! GX, Tortue Ninja 2003, Chin Cheng et Dinosaur King.
Comment avez-vous été choisi pour chanter le générique de Pokémon ?
Par hasard, en fait. J'étais au bon endroit, au bon moment, et j'étais prêt, surtout. Et en fait, il y avait une audition que j'ai pas faite, parce que je travaillais mon album, et en fait, la personne ne trouvant pas, elle est venue dans ma petite alcôve où je mixais mon album, et elle m'a demandé, en fait, de lui faire écouter ce que je faisais. Et je la fais courte, mais en fin de compte, elle m'a demandé de faire l'audition, parce qu'il allait la refaire. Comme moi je travaillais, j'ai demandé de me laisser travailler. Et donc, cette personne a été voir le Big Boss, le patron. Et le patron lui a fait écouter les génériques que j'avais déjà faits. Et du coup, il a décidé de me prendre.
Imaginez-vous qu'Attraper les tous deviendrait un slogan mondial ?
Du tout, du tout. En même temps, la pensée n'a même pas traversé l'esprit. Dans le sens où, quand on fait un générique, on n'a jamais entendu le morceau. On arrive et on l'entend pour une première fois. Et en fait, il y a un exercice qui doit se faire, c'est trouver la scansion idéale avec les nouvelles paroles en français par rapport à la version originale et en écoutant ce que dit le directeur artistique. On est hyper concentré en fait, et donc on est plus dans la concentration et dans le fait de vouloir le faire bien et de bien le faire que de se dire « Oh, ça va être un succès
!» Est-ce qu'il y a un passage du générique que vous chantez différemment aujourd'hui ou que vous chanteriez différemment ?
Non. Non, parce que je trouve que c'était vraiment bien fait, en fait. J'ai déjà essayé, hein. On essaye toujours de faire d'autres choses, etc. Mais en fait, c'est vraiment bien fait, c'est bien étudié. Et même par rapport à la version originale, il y a des choses qu'on a adaptées. Et je pense que c'était bien fait et que ça ne doit pas être changé.
Quelle est la réaction la plus drôle que vous ayez eue en chantant Pokémon en concert ?
La réaction la plus drôle ? En fait, drôle, sur le moment, j'ai pas trouvé ça drôle, mais après, c'était la toute première fois en fait que je le chantais en live, et donc je ne l'avais chanté qu'une seule fois en fait, le jour de l'enregistrement, et donc du coup j'ai dû l'apprendre par cœur, et je suis arrivé, c'était la première fois que j'allais le faire en live devant des gens, mais j'étais pas vraiment à l'aise, c'était une première fois, c'était une toute première, et en fait je me suis rendu compte que les gens la connaissaient mieux que moi. Donc j'avais d'autant moins droit à l'erreur et j'ai un petit peu plus paniqué et c'est bon, après coup c'est très drôle.
Est-ce qu'il vous arrive encore que des adultes chantent le générique avec vous mot pour mot ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs parfois en concert c'est ce que je fais, je leur dis de le chanter et je les laisse faire en fait. Et bon, je leur donne un petit coup de main comme ça à gauche à droite, mais en fait ils le chantent et c'est des grands moments.
Est-ce que vous avez déjà réalisé en chantant Pokémon que vous étiez en train de créer un souvenir d'enfance pour des millions de personnes ?
Non. Non, c'est vraiment c'est un, comment on dit, un backdraft. C'est venu par après. Je ne m'en suis jamais rendu compte. C'est les gens en fait qui m'en parlent. Et du coup, j'en prends conscience.
Quel Pokémon vous représente le mieux ?
Dracaufeu. Dracaufeu, c'est vraiment... c'est moi. Pas avec la stature, etc. Mais l'histoire, en tant que Salamèche, avoir été abandonné par son dresseur, et puis finalement avoir accepté Sacha, et puis une deuxième fois, en tant que Reptincelle, Sacha lui dit qu'il va venir le chercher, mais en fait il vient pas. Reptincelle se sent abandonné, c'est la deuxième fois, et puis il devient cette espèce de colosse qui refuse d'obéir, en fait. Et ouais, ça me ressemble beaucoup.
Et finalement, vous êtes plutôt team Pokémon, Yu-Gi-Oh, Tortue Ninja ?
Compliqué, hein. Je dirais Pokémon, mais je suis accro aux trois.
Est-ce que vous avez déjà eu une demande bizarre du type chante Pokémon en version rap, metal ou opéra ?
Oui, on m'a demandé le Poké Rap, mais pour Dragon Ball. Donc avec tous les personnages de Dragon Ball. C'était très drôle.
Est-ce qu'il vous arrive de chanter Attraper les tous dans la vie de tous les jours sans vous en rendre compte ?
Pas sans m'en rendre compte.
Volontairement et de façon assumée ?
Oui, 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 ça m'arrive. Ça m'arrive. Et même carrément, c'est devenu une espèce de mème. Quand on fait un truc qui est drôle ou quoi, ben, je regarde mon pote et je lui dis « Ensemble pour la victoire
!» Et quel serait le pire Pokémon pour vous remplacer au micro ?
Le pire Pokémon pour remplacer ? Rondoudou, il va endormir tout le monde.
Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vaguant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez, même notre âge, un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon, les tous, attrapez.
Au fil du concert des animés, les membres de l'association Cosplay Corp ont également pris part au spectacle. Sur plusieurs tableaux musicaux, ils sont montés sur scène en cosplayant les personnages des séries interprétées, apportant une dimension visuelle aux performances et renforçant l'immersion du public dans l'univers des animés et des dessins animés. Claude, président de Cosplay Corp, dont Jean-Marc Otonikabea est le parrain, et Romain, vice-président, nous disent tout de leur participation à cette soirée.
Jean-Marc nous a dit qu'il avait ce concert et qu'il aimerait bien qu'on soit avec lui sur scène en tant que cosplayer de Pokémon, dresseur Pokémon, etc. Et en discutant un peu, on a appris que Jean-Paul aussi faisait partie du concert. Et on a décidé, quelques membres, de faire aussi des cosplays pour Nicky Larson, pour l'accompagner à ce niveau-là. Donc ça va être principalement montrer un peu de costumes, mettre en avant les chanteurs, jouer avec le public, ce genre de choses.
Quel est votre cosplay préféré ?
Alors mon cosplay préféré pour le moment, c'est Dracaufeu. Il n'est pas très pratique, je ne vois absolument rien dedans.
Mais si on danse ?
Ça va être compliqué, mais je peux me débrouiller. Mais c'est surtout un cosplay qui plaît beaucoup et surtout aux enfants. Chaque fois qu'ils voient le Dracaufeu sortir, ils ont des grands yeux, des sourires jusqu'aux oreilles. C'est ça qui est génial.
D'où venez-vous ?
On vient principalement d'Orléans, pour la plupart. On a fait le voyage exprès pour Tarare, pour Jean-Marc et pour tous les fans de dessins animés des années 80.
Je fais du cosplay depuis environ 5 ans. Avec des amis que j'ai rencontrés à Orléans, avec qui on a une passion commune justement pour ces univers de la pop culture. Et donc l'année dernière, on a décidé ensemble de créer l'association Cosplay Corp. Voilà, il y a différents univers qui sont représentés dedans. On a du Star Wars, du Marvel, du manga notamment, de l'animé avec du Pokémon entre autres. C'est dans une très bonne ambiance, il y a beaucoup de bienveillance entre nous et ça c'est un réel plaisir.
Combien êtes-vous dans l'association ?
On est une bonne quinzaine, oui.
Ce soir, vous êtes au complet ou pas du tout ?
Non, pas au complet, parce qu'il y a des gens qui ont des obligations professionnelles, mais quand même, plus de 50% des membres ont accepté de faire le déplacement. Certains sont venus, ils ne vont pas forcément apparaître sur scène parce qu'ils ne souhaitaient pas avoir de la timidité, mais ils sont quand même là en backup pour nous filer un coup de main, pour justement les changements de costumes, entre autres.
Des premières notes de Goldorak au refrain de Pokémon, de Nicky Larson, Olivier Tom jusqu'à Miraculous Ladybug, le concert des animés a fait bien plus que revisiter des génériques cultes. Il a ravivé des souvenirs, ceux de plusieurs générations. Sur scène, les voix ont retrouvé leur public, parfois des années après, dans une salle où parents et enfants partageaient les mêmes refrains. Un pont entre les époques, entre les séries d'hier et celles d'aujourd'hui. Et autour d'eux, les cosplayers ont donné corps à ces univers, prolongeant l'imaginaire des dessins animés bien au-delà de l'écran. Une soirée dense et généreuse, portée par une énergie jamais retombée, qui a tenu le public jusqu'au bout de la nuit, et où chacun est reparti avec un peu de son enfance en tête.
Et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Sauver ton temps et...
Initiatives citoyennes, rencontres, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.